Ce forum pour parler ce matin de travail, vous savez que c'est notre cycle temps présent autour du travail tout le week-end. Alors il y a une certaine ironie à parler du travail un jour férié, mais visiblement on y sont d'accord pour venir travailler à nos côtés et pour venir parler justement du travail. Le travail, l'étymologie du mot est un peu disputée. Il y a deux origines possibles. Le tripalium était un instrument de torture à trois pieds utilisé dans la Rome antique et qui aurait donné le mot travail. Et puis il y a une autre étymologie qui voudrait que ce soit plutôt l'idée d'une tension vers un but, quelque chose, un trajet, qui rappelle le travel anglais, travel, travail. Et on est déjà, en reprenant cette question étymologique, sur l'une des questions qu'on va poser au cours de cette rencontre, sur le sens du travail. Est-ce qu'il est un moyen de reconnaissance, d'émancipation, de fierté, voire de création? Ou est-ce qu'il est au contraire condamné à n'être qu'un labeur d'épreuves, de souffrances, de reproduction des hiérarchies sociales avec leur lot de mépris et d'humiliation? On va en parler avec trois auteurs phares de cette rentrée littéraire, trois auteurs dont leurs ouvrages touchent de près ou de loin à cette question du travail. Tout d'abord, Rachid Benzine, tout à ma droite. Bonjour Rachid. Vous êtes politologue, islamologue, mais aussi écrivain, romancier et dramaturge. Après Ainsi parlait ma mère et Voyage au bout de l'enfance, vous avez conclu une forme de trilogie familiale avec Le silence des pères au seuil, soit l'histoire d'un fils qui découvre, à la mort de son père qu'il n'a plus vu depuis 22 ans, une collection de cassettes où celui-ci racontait à son propre père sa vie de jeune exilé, un magnifique roman sur les non-dits intimes ou sociétaux, mais où la question du travail apparaît en filigrane. À vos côtés, Gaspard Koenig, philosophe, essayiste. Vous suivez dans votre roman Humus, qui vient de recevoir le prix Jean Giono après avoir été finaliste du Goncourt et du Renaudot, le destin de deux jeunes ingénieurs diplômés en agronomie, Arthur et Kevin, qui vont se lancer dans deux voies différentes pour développer la lombriculture. Alors, on parlera peut-être de la lombriculture. et c'est publié à l'Observatoire. Et puis, on va voir à travers ces deux destins des façons différentes d'appréhender la question du travail. Et enfin, à mes côtés, juste à ma droite, Franck Courtès. Bonjour, Franck. Ancien photographe de presse, passé à l'écriture depuis une dizaine d'années. Dans votre récit À pied d'œuvre, vous racontez justement comment ce choix vous a conduit petit à petit vers la pauvreté et donc à endosser une multitude de petits boulots en parallèle de l'écriture. Un récit assez décapant sur la réalité de ces nouveaux jobs, livreurs, manœuvres, hommes à tout faire dans notre société moderne. Alors peut-être, Franck, puisque je vous présentais, à la lumière de votre ouvrage, vous parlez à la fois d'un travail qui est un travail plutôt artistique, celui de la photographie, et puis de tous ces travaux manuels. Est-ce que ça veut dire que la question du travail, on peut parler du travail au singulier, ou est-ce qu'il faudrait toujours, en réalité, accorder ce mot au pluriel pour respecter la diversité de ce que peut recouvrir l'idée de travail ?
Moi, je reprends un peu votre définition là, de l'étymologie du travail. Effectivement, il y a quand même une différence énorme entre je suis en train de le vivre entre les petits boulots qui sont juste effectivement une sorte d'esclavage et le travail choisi par passion qui est effectivement un travel, un voyage et un moyen d'émancipation et de bonheur, quoi. Donc moi, effectivement, j'oscille sans cesse entre la contrainte et la liberté du choix, quoi, avec évidemment une liberté qui coûte très cher, quoi.
Vous dites ceci en comparant le travail artistique et le travail manuel dans votre ouvrage. Le travail manuel, s'il est usant pour le corps, reste plus facile à réaliser que le travail artistique, en ceci qu'il décharge et allège de bien des inquiétudes mentales. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, cette idée que finalement le travail manuel est plus facile que le travail artistique.
Bah, le travail manuel est plus facile mentalement, en fait. Évidemment, physiquement, ça casse, ça abîme les corps. Moi-même, je suis obligé d'arrêter un peu pour un temps, quoi. Mais tout de même, il y a toujours une notion de début et de fin. Il y a un plaisir de la mission accomplie, du travail terminé, avec un temps de vacances qui suit, qui est très agréable, que j'ignorais puisque j'étais photographe avant, donc et que maintenant j'écris. Donc il y a une espèce aujourd'hui une rumine, enfin dans le travail intellectuel, parce que même la photo est un travail intellectuel en fait, mais c'est une espèce de rumination permanente sur le projet qu'on a en cours, qui ne prend quasiment jamais fin, qui exclut le repos des week-ends, des vacances. On va se coucher avec quand même le sentiment de peut-être pouvoir faire mieux le lendemain, avec un goût d'inachevé qu'on n'a pas dans le travail manuel, en tout cas celui que je pratique, qui est celui de manœuvre. C'est-à-dire que c'est pas un travail ouvrier, hein, c'est un travail de manœuvre ponctuelle, des missions très précises qui prennent fin toujours à un moment, quoi.
Ce travail ouvrier, justement, Rachid Benzin, c'est plutôt celui qu'on va découvrir à travers le père, le destin du père dans votre roman. Et là aussi, il y a une opposition, justement, entre le travail manuel et le travail artistique, parce que le narrateur, lui, est un pianiste, il fait des récitals. Et son père, celui qui va redécouvrir à travers ses cassettes, eh bien, on va découvrir qu'il a été mineur, il a travaillé à la mine, il a travaillé dans les usines, ouvrier chez Lippe notamment. Est-ce qu'ils peuvent se comprendre, justement, ces deux univers ?
Tout d'abord, la notion du travail, c'est une catégorie de pensée. À un moment, c'est une construction sociale, à un moment donné, dans une société avec laquelle on va essayer, en tout cas, de circonscrire tout ce que nous entendons par travail. Et à chaque fois qu'on nous disons le mot travail, en fait, on exclut d'autres mots qui pourraient faire partie globalement de cette catégorie-là. Et donc, on voit bien que pour pouvoir se parler, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir interpréter, on est obligé de simplifier. Mais que globalement, effectivement, il y a cette, en tout cas, une des manières de catégoriser, c'est entre le travail manuel et le travail intellectuel ou le travail, je dirais, artistique, et même cette catégorisation, on peut aussi l'interroger. C'est ça qui est très intéressant. Et je trouve que c'est très important de ne pas rester sur des catégories qui sont fermées. Il y a une dialectique et il y a des choses qui se passent. Il y a des mondes entre les deux. Simplement, dans le narrateur, en tout cas, dans ce que j'ai essayé de faire dans Les silences des pères, c'est ce père-là qui travaille avec un objectif bien précis, qui est tout d'abord de nourrir sa famille. Voilà, donc l'objectif dans le travail ouvrier, c'est un moment, il n'y a pas tellement de sens, où le seul sens, c'est plutôt l'idée du sacrifice, et un sacrifice que l'on fait pour ses propres enfants. Donc ça, c'est le travail ouvrier, notamment dans les années 70 et aujourd'hui, tout simplement l'idée d'un travail qui serait pour gagner son pain. C'était quand même une conception du travail qu'on a eue jusque dans les années 90. Après, il y a un phénomène qui se saisit globalement avec l'arrivée du libéralisme, avec la question de l'individu, avec la question de l'épanouissement, avec la question de l'émancipation, où la question du travail, en tout cas pour le fils qui est un pianiste international, c'est un lieu d'épanouissement. C'est un lieu où on va trouver du sens. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit aujourd'hui qu'il faut trouver du sens. Ça va de Psychologie Magazine jusqu'au est-ce que le travail a un sens ? Et je crois qu'il faut pouvoir peut-être interroger pourquoi aujourd'hui il y a constamment ce besoin de trouver du sens de ce que nous faisons. Et à mon avis, c'est plutôt à partir de là que j'ai plutôt envie d'interroger la catégorie du travail. Est-ce que la question du sens qui relève, je dirais, de l'existence humaine, dans quelle manière le marché, le capital, le libéralisme va se saisir de cette question du sens pour retrouver une émergence et faire aimer le travail ? Voilà.
Il y a presque une pression aujourd'hui à trouver du sens à son travail ?
Ah ben oui, aujourd'hui, il y a des injonctions à parler. Il y a des injonctions à ne pas se taire, parce que si vous vous taisez, c'est que vous êtes complice. Vous voyez, donc, vous voyez de quoi je parle. Et il y a une injonction à trouver du sens. Et vous avez un certain nombre de managers qui vont justement retrouver cette idée, bah, comment je vais garder des gens, j'irai dans une usine, dans une entreprise, bah, je vais leur parler du sens et puis je vais surtout leur parler de reconnaissance. C'est-à-dire que le travail doit être le lieu de la reconnaissance du sujet. D'un seul coup, vous êtes reconnu. Il y a une espèce d'estime sociale, il y a une espèce d'estime d'utilité. Et que globalement, les êtres humains, et là, je fais appel à Hegel, depuis le maître et l'esclave jusqu'à Axel Honneth, penseur allemand, ou Paul Ricoeur, c'est que l'être humain est en quête de reconnaissance. Et tous, hein, qu'on soit au travail, qu'on soit au niveau de l'éducation, nous avons besoin de cette quête de reconnaissance. Et comment le sens va se saisir de cette quête de reconnaissance pour que les gens deviennent encore beaucoup plus productifs. Et donc, le travail n'est plus simplement le labeur, comme disait la Bible, avec l'idée de la sueur, c'est qu'on essaye de trouver du sens dans une société qui elle-même est en quête de sens et qui ne sait plus comment elle va. Et une des perspectives, c'est qu'on voit la place de la mémoire, comment elle rejaillit. La mémoire en France a un avenir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus du tout cette capacité de pouvoir se projeter. Globalement, beaucoup de parents, jusque dans les années 80, pensaient que leurs enfants vivraient mieux qu'eux. Ah, c'est l'ascenseur social, l'ascension sociale. Aujourd'hui, je dirais, la perspective d'avenir, elle s'écroule tellement qu'il y a une espèce de commémoration du passé qui devient complètement excessive et un sens qui est complètement dilué, qui est complètement éparpillé. Mais le sens, c'est une construction sociale. Ah, le sens n'arrive pas comme ça, il n'y a pas le sens avec un S. On peut créer des effets de sens, on peut créer des effets de vérité que les gens prennent pour du sens, mais le sens est toujours une construction avec quelque part une altérité. Et le sens est aussi de la direction. Et on voit bien aujourd'hui ce que j'appellerais la guerre des récits dans la société française. Vous avez un certain nombre de récits qui émergent pour définir ce qu'est la société française, pour définir ce que nous pouvons faire, etc. Et on voit bien que cette guerre des récits traduit globalement une espèce de chaos que les gens ont du mal à accepter. Et ce qui est très difficile à accepter, c'est que nous devenions impuissants face à ce qui nous arrive. Et là, automatiquement, la question du sens est posée.
Gaspard Koenig, la question du sens, c'est justement quelque chose qui habite vos deux personnages dans Humus, Arthur et Kevin. Arthur, lui, est un néo-rural qui va se lancer dans la régénération d'un champ épuisé par les phytosanitaires, et notamment grâce à la lombriculture. Et puis Kevin, lui, se fait plutôt happer par le monde des start-up et du capitalisme vert. Chacun, à sa manière, à l'idée que son activité va avoir un sens, mais ce sont quand même deux façons très différentes d'aborder la nature du travail.
Oui, bonjour à tous. Comme on est samedi matin, je me permets d'être un peu brutal conceptuellement, de ne pas prendre de gants et de faire des petits essais. Et j'aimerais bien finalement simplifier le sujet en disant au fond, il y a deux formes de travail. Alors je vais m'abriter derrière Anna Arendt, c'est plus chic, mais bon, je pense que c'est aussi assez évident. Il y a le travail comme œuvre qu'on fait parce qu'effectivement c'est un accomplissement, qu'on a produit quelque chose. Et le travail pour assurer sa subsistance. Et ça peut aller très loin parce qu'au fond, il y a des gens qui gagnent des millions, mais qui travaillent toujours pour assurer leur subsistance. Mais simplement, c'est une subsistance encore plus exigeante, toujours plus exigeante. Et quand on est écrivain en particulier, on s'aperçoit que la plupart du temps, on fait le travail comme œuvre et le travail comme subsistance prend une part de plus en plus faible. Et de ce point de vue-là, si on prend ces deux grandes catégories, j'opposerai beaucoup moins le travail manuel et le travail intellectuel. D'abord, je pense que l'écrivain, c'est un artisan. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. Quand je suis toute la journée à enfiler les mots. C'est un labeur. C'est pas des grandes bouffées d'inspiration. Et à la fin de la journée, on est content d'avoir produit ces 5 ou 10 000 signes. Et voilà, on a le sentiment du travail accompli. Et le travail manuel est au fond très proche. Moi, je l'ai beaucoup découvert en préparant mon voyage à cheval que j'ai fait à travers l'Europe. J'ai appris la maréchalerie, la bourrellerie. Bon, les soins vétérinaires aussi pour cette pauvre jument. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'ai continué depuis. Donc, je me suis formé à la menuiserie et j'organise chez moi en Normandie des petits stages où les gens font ce qu'on a appelé manophilo, où les gens font le matin du travail manuel. Donc ils apprennent soit la menuiserie, soit la bourrellerie. Donc la bourrellerie, c'est le travail du cuir. Donc au bout de 3 jours, ils savent faire une ceinture à partir d'une pièce de cuir. Et l'après-midi, on fait de la philo. Et pour moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu la même chose. Et Matthew Crawford a très bien dit ça dans un livre qui est traduit en français par Éloge du carburateur, à savoir que donc lui, c'était un prof de philo qui en avait un peu marre des cours, des amphis, des concepts, et qui a ouvert un atelier de réparation de motos. Bon, en fait, réparer des motos, ça n'a pas beaucoup de sens en soi. Hein. En termes de RSE, d'ailleurs, c'est probablement très mauvais. La moto, ça émet du carbone. Bon. Mais ce qui a du sens, c'est le travail de réparation, le contact avec le client. Et le fait que dans le travail manuel, exactement comme quand vous essayez de trouver le bon mot dans un paragraphe, vous êtes toujours en train de bricoler. Et le bricolage, c'est très profond. Lévi-Strauss en fait d'ailleurs le moteur même de la pensée sauvage. Il dit la pensée sauvage, c'est la première pensée, en fait, anthropologiquement. C'est la manière dont les concepts sont créés par les êtres humains. Il dit c'est par bricolage. Et la définition du bricolage, c'est quoi ? C'est détourner un objet ou un mot de sa finalité première et d'en faire autre chose. On a une pièce qui servait à fixer les boulons, bah, boum, on va en faire quelque chose qui va faire un soutènement ou n'importe quoi d'autre. Et en fait, ça, ça demande beaucoup d'intelligence, une intelligence très active. Effectivement, c'est pas là, pour le coup, le travail purement physique, répétitif, qui, lui, peut ne pas avoir de sens. Mais c'est un travail qui va construire quelque chose. Pour construire une table ou une bibliothèque, il faut calculer beaucoup de choses, anticiper énormément de choses, et puis constamment, on va faire une erreur, mais cette erreur n'est jamais définitive. On peut toujours la reprendre. C'est exactement pareil pour un texte. Ça, c'est le travail comme œuvre. Le travail comme subsistance, c'est celui qu'on fait pour gagner sa vie, est évidemment par définition, je dirais, ennuyeux, quel que soit le travail, quel que soit le sens qu'on essaye de lui donner dans les départements de RSE. Il est par définition nul, en fait. Et je pense que le but de nos vies, mais aussi de la société, en termes de politique publique, c'est d'amoindrir cette part du travail consacré à la subsistance. Et ce n'est pas du tout un truc de rêveur, parce que, encore une fois, bah, des anthropologues comme Marshall Salins, qui a écrit Stone Age Economics, et, donc c'est un livre très amusant, qui avait beaucoup de succès dans les années 70, sur la manière dont les sociétés premières étaient construites économiquement. Et il expliquait que c'était, en fait, un âge d'abondance et de prospérité. Et donc, si on caricature un peu, c'est que les chasseurs-cueilleurs, ils passaient 2-3 heures à travailler dans la journée, c'est-à-dire à les cueillir, à les chasser. Et puis, en fait, ça assurait une subsistance très minime. Et le reste du temps, ils faisaient des jeux, ils faisaient des fêtes. David Graeber en parle beaucoup aussi du rôle du jeu et de la fête dans la construction des sociétés humaines. Ce n'était pas du tout des sociétés besogneuses, accablées de travail. Ça, c'est un mythe qu'on a construit rétrospectivement. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des moyens de politique publique. On en parlera peut-être. Moi, j'ai défendu très longuement le revenu universel, qui justement permettent de mettre fin finalement à la part purement subsistance du travail. Et je note d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut lire Thoreau, Walden. Je ne sais pas si vous voyez, Thoreau, qui a aussi écrit sur la désobéissance civile, hein, c'est pas un hasard. Et c'est très marrant quand on lit Walden, parce qu'on dit c'est le Tesson du 19e siècle, il est dans une cabane, dans les bois, isolé, etc. Pas du tout. En fait, quand on lit le texte, il travaille, Thoreau. Il travaille et il fait des calculs. Et dans le livre, il y a sa comptabilité. Il y tient beaucoup. Parce qu'en fait, il essaye de réduire ses besoins au maximum pour arriver à la vie, ce qu'il appelle la vie crue, ce dont il a besoin, lui. Pour survivre, c'est très peu. Pour d'autres gens, pour moi, ça va être davantage. Parce que moi, je vais avoir une jument. Pour avoir une jument, il faut payer le foin. Enfin voilà, chacun va trouver son niveau. Et puis, il va dire, bon, mais je veux alors pouvoir travailler exactement ce qu'il me faut pour assurer ce niveau de subsistance dont j'ai compris que j'avais besoin. Il calcule ça à un mois par an, je crois. Et c'est des calculs extrêmement détaillés. Et donc, lui, il est dans le marché, Thoreau. Hein. Donc, il cultive son champ de haricots dans la forêt de Walden. Il ne fait pas que de l'autosubsistance et il le vend. Il le vend, il travaille un peu comme charpentier aussi, comme maître d'école. Mais voilà, ça lui prend environ un mois par an et ça lui laisse 11 mois pour faire tout à fait autre chose. Parce qu'il a défini son seuil de subsistance, encore une fois, qui varie selon les individus. Et pour le reste, il se consacre au travail comme œuvre. Et chez lui, l'œuvre, ça va être l'œuvre poétique, l'œuvre d'écriture ou tout simplement l'œuvre de vie, quelque part, quand il se promène, quand il observe si bien la nature autour de lui.
Franck Cortès, est-ce que vous vous sentez comme un taureau moderne en divisant, justement, comme vous le racontez dans un pied d'œuvre, les moments d'écriture, ce travail comme œuvre, peut-être, que l'a laissé Gaspard Koenig, et puis des travails de subsistance, là, pour le coup, très, très spécifiques.
Je pourrais ajouter une sous-division au travail manuel pour préciser un peu cette... C'est le métier et le travail manuel sans aucune projection. C'est-à-dire que, évidemment, le travail manuel avec un agriculteur, par exemple, dont je trouve que les écrivains sont très proches dans l'économie en général, parce qu'on est les producteurs et les moins rémunérés de toute la chaîne alimentaire, ont une projection. Ils savent qu'ils travaillent pour dans 6 mois, l'année prochaine. Il y a quelque chose d'un avenir, d'un sens, encore une fois, qui se projette dans le temps. Les travaux que je suis amené à faire parce que je n'ai aucune qualification les gens avec qui je partage ces petits boulots, c'est-à-dire beaucoup d'immigrés, beaucoup de sans-papiers qui ne peuvent pas accéder de toute façon au marché du travail classique, c'est vraiment, alors là, pour le coup, c'est vraiment pour gagner le pain du lendemain, mais même pas pour avoir des allocations chômage plus tard ou une retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune vision à long terme, aucune. Et effectivement, peut-être que cette obsession pour le sens du travail dans les entreprises a libéré une immense place pour le travail que les gens ne veulent plus faire, qui est le travail le moins intéressant et qui est retourner le ciment pour un maçon qui, lui, est aussi un travailleur manuel, mais qui a un métier, qui est un ouvrier. Et les manœuvres dont moi je parle dans mon livre, on est des sous-ouvriers, on est une catégorie de travailleurs manuels qui est complètement invisible, invisibilisé, même pas arrêté par la police ou contrôlé par les agents du fisc, enfin de l'URSSAF. Enfin, c'est encore une sous-catégorie. Voilà.
Vous dites dans le livre, ce que je fais comme travaux, ce ne sont pas des travaux que les gens ne peuvent pas faire, ce sont des travaux que les gens ne veulent pas faire.
Oui.
C'est descendre des gravats, c'est arracher, il y a un moment, toute une, vous racontez, à un moment il faut arracher, je ne sais plus quelle plante, dans des jardinières, des buis, exact, des buis avec toutes ces petites racines et ces radicelles. Tout le monde pourrait faire ça, mais ce sont ce que les gens ne veulent pas faire.
Ben oui, parce que ça n'a aucun sens, parce que c'est fatigant, parce que les gens pensent... sont prêts à payer pour se libérer du temps de loisirs, du temps pour faire autre chose de plus intéressant. Et donc, il y a il y a beaucoup de travaux accessibles comme ça. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que donc les nouveaux pauvres, ou les gens, en tout cas, sortis du système classique du travail, et effectivement les sans-papiers, les gens comme ça, c'est qu'on n'exploite plus tellement leur force de travail, mais vraiment l'accès à ce travail. Donc il y a des entreprises aujourd'hui qui dirigent des employés qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les noms. Tout le monde s'appelle par son prénom. Et on donne accès au travail. Et c'est là-dessus que ce nouveau patronat font leurs bénéfices, en fait. C'est juste l'accès au travail.
Vous dites même qu'il faut payer pour travailler.
Il faut
payer les plateformes pour pouvoir être mis en avant et avoir accès au job.
Oui, au début, effectivement, on versait simplement une commission, ce qui paraissait à peu près logique. Et très vite, ils sont rendus compte que pour pouvoir gagner encore plus d'argent, ils nous faisaient payer d'avance un forfait pour avoir accès à leurs algorithmes qui mettaient en relation des clients et des prestataires. Sachant que de toute façon, une fois qu'on est en concurrence les uns avec les autres pour obtenir les petites missions, on dévalue nos salaires chacun le plus possible, donc jusqu'à arriver à des sommes dérisoires. Et ces nouveaux dirigeants sont ravis que ce soit nous qui abaissons le prix de l'heure de travail plutôt que eux. Donc en fait, nous, on se dévalue nous-mêmes. Et en plus, on n'a aucune protection sociale en cas de...
Monsieur Gaspard Koenig.
Juste en une phrase, je pense que justement, une réponse très puissante à ça, c'est le revenu universel, sans vouloir en faire une obsession, parce qu'il donne un pouvoir... financièrement, en fait, on peut démontrer que c'est faisable étant donné le niveau de dépenses sociales actuelles. C'est pas quelque chose d'aberrant, c'est juste une manière d'organiser les flux. Et à partir du moment où il est inconditionnel, c'est pas une question de somme d'argent, c'est l'inconditionnalité qui compte. C'est-à-dire que tout le monde reçoit une somme sans absolument rien en échange, donc l'inverse de des réformes actuelles sur le RSA. Et en fait, ça donne un pouvoir de négociation aux gens qui peuvent toujours dire qu'ils ne sont plus menacés dans leur survie économique première. Et donc qui ont, même si c'est des sommes, évidemment minimes, qui ont toujours la possibilité de dire non pour se retrouver dans leur bulle et pouvoir subvenir à leurs besoins. Et qui donc peuvent négocier. Et donc un tel revenu changerait les salaires, mais dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, les boulots les plus pénibles seraient forcément bien revalorisés pour attirer des gens. À l'inverse, on peut imaginer que des boulots hyper sympas et intéressants soient dévalorisés financièrement, en disant, bon, bah, de toute façon, tu as ton revenu universel. Donc, en fait, ça changerait les échelles de salaire, non pas en fonction de la pénibilité des jobs, de manière naturelle, sans avoir à calculer des points de pénibilité administrativement, mais pas sur leur degré de qualification.
Oui, c'est une sorte de contre-révolution qui serait intéressante, parce que là, ce à quoi on assiste, c'est vraiment une révolution par le côté le plus sombre et cynique du libéralisme moderne. Et donc, effectivement, oui, ça serait un bon contre-feu à opposer. Oui. Pourquoi pas? Moi, je vais m'intéresser à ça. Oui.
Vous évoquez d'ailleurs tous les deux la question du RSA dans vos romans. Dans votre roman, Franck Courtès, le RSA apparaît comme une machine à, en réalité à humilier ceux qui vont le toucher parce qu'ils doivent aller prouver n'importe quelle, toutes les formes de petites dépenses qu'ils vont avoir et que si vous touchez un virement de votre mère qui, pour vous aider à payer les courses, bah, il faut pouvoir le déduire de son RSA.
Oui, on évite, on est beaucoup, on est très nombreux à éviter de demander le RSA parce qu'il y en a beaucoup qui n'y pensent pas, comme moi par exemple, j'ignorais même que j'avais le droit. Mais c'est vrai que quand on le reçoit, il y a une espèce de, à la fois une petite joie de se retrouver avec un petit coussin amortissant une pauvreté un peu plus décente et en même temps une grande humiliation parce que derrière, c'est la porte ouverte à toutes les menaces des employés de la CAF qui n'arrêtent pas de nous convoquer pour nous contrôler et qui, en gros, en gras sur les lettres, nous disent « Votre RSA peut être supprimé ». Et supprimer le RSA de quelqu'un qui a construit son économie dessus, c'est le condamner à pratiquement à l'affamer. Enfin, et ça peut être très, très dangereux. Il y a beaucoup de suicides, d'après ce qu'on m'a raconté, quoi. C'est très... C'est un moyen de pression terrible. Et puis les contrôles se font sur l'intime. Effectivement, si votre maman, qui elle va très bien, qui a vécu toute sa vie heureuse, vous voit au RSA, à l'âge que j'ai par exemple, et on est nombreux, et qui décide de vous donner 100 euros pour aller faire les courses, elle a intérêt à le faire en liquide. C'est d'ailleurs ce que disent les contrôleurs. Avec un clin d'œil et en espérant ne pas être enregistrés, ils nous disent surtout... essayer de profiter des sommes le plus possible en liquide. Il y a un double langage de toute façon du gouvernement qui est de valoriser le travail artisanal, noble, etc. Et puis par ailleurs, un laisser-aller complet sur le travail au noir parce que ça les arrange bien. Peut-être d'ailleurs comme le trafic de drogue qui, si on l'enrayait, mettrait sur la paille des dizaines de milliers de familles qui viendraient réclamer des aides sociales derrière. Donc tout ça est assez perturbant, quoi, surtout quand on doit rembourser les indus. Ouais, voilà, quoi. Moi, j'ai vendu, par exemple, une montre, une moto. Je ne savais pas qu'il fallait que c'était considéré comme un salaire, en fait. Donc pendant une année, on m'a supprimé le RSA, ce qui a été vraiment une catastrophe, quoi. Bon, moi, je m'en sors, évidemment, mais... Il y a plein de gens que ça terrifie, que ça plonge dans une misère, une angoisse morale terrible, quoi.
C'est ce qui arrive à votre personnage, Arthur.
Exactement. Il y a un tiers de nos recours au RSA aujourd'hui, exactement pour ces raisons-là. Moi, je mets en scène dans mon roman un contrôle, justement, des CAF qui va vérifier. Alors là, c'est une autre histoire, mais c'est très similaire si les deux récipiendaires du RSA sont en couple ou pas. Parce que quand vous êtes un couple, le RSA est familialisé. Donc, ça veut dire que vous percevez moins. Au nom du code civil qui dit que les époux se doivent d'assistance mutuelle. Et donc, vous avez véritablement, et ça c'est dans des attendus de procès pour induits du RSA, donc je n'ai pas inventé, vous avez des contrôleurs qui demandent aux gens, mais alors est-ce que vous êtes vraiment en couple ou pas? Ou est-ce que vous êtes colocataire? Avec des assos qui disent aux gens, il faut vous déclarer comme colocataire. Il y a marqué sur le site des CAF, il y a marqué si, globalement, si vous couchez avec votre coloc, vous devez le déclarer.
C'est ça.
C'est dingue, hein. Vous devez le déclarer à l'administration, parce qu'on vous réduit votre RSA. Et comment ils vérifient ça? Mais il regarde le nombre d'oreillers qu'il y a sur le lit,
le nombre de
brosses à dents qu'il y a dans les verres. Mais c'est vrai, vrai.
Non, c'est vrai.
Donc, ce que je veux dire, c'est que la persécution administrative que nous subissons tous dans ce pays, on est d'accord, est encore plus cruelle et plus terrible pour des gens qui n'ont absolument pas les moyens de se défendre, qui en dépendent. Et quand on dit que tout ça est des incitatifs au travail, mais c'est n'importe quoi, c'est la situation actuelle, en fait, qui est, comment on dit, de l'assistanat, qui décourage au travail. Parce que, comme tu le disais très justement, quand on fait le petit boulot ou qu'on vend sa voiture ou qu'on bricole ou quoi, on a peur. On a peur de perdre ça. Alors que si la somme était stabilisée, la même pour tous, premièrement, on ne serait pas stigmatisé de la recevoir, parce que tout le monde la recevrait, c'est un revenu citoyen, le droit de vivre au minimum, dignement. Surtout, tout ce qui vient en plus serait du bonus. Donc les gens seraient naturellement incités, alors que là, les gens ont tellement peur de perdre leur RSA qu'on change de département, on doit changer de CAF. Mais ce n'est pas des détails tout ça, parce que ça veut dire qu'on vit dans un monde extrêmement normé, bureaucratisé, où on essaye d'inciter les gens à faire exactement ce que l'État a en tête pour eux. Alors, il faut chercher tel type de travail, tel là, faire telle formation. Et au lieu de avec les mêmes sommes d'argent, de laisser les gens vivre et de faire le pari qu'ils vont trouver eux-mêmes des solutions intelligentes par rapport à leur situation, en leur redonnant la dignité de pouvoir dire non.
Rachid Benzine, je voudrais revenir sur l'idée qu'évoquait tout à l'heure Franck Cortès de projection, le fait que certains métiers pouvaient plus facilement entraîner une projection vers l'avenir que d'autres. Dans votre roman, quand on lit les cassettes enregistrées par le père, on a cette idée que la projection, elle n'est pas tant pour soi, le sens de son travail n'est pas tant pour soi que pour les générations à venir. Je vous cite, c'est un des personnages qui dit ceci, c'est pour vous qu'ils ont tout sacrifié. La réussite de leur exil, ce n'est pas la leur, mais c'est celle de votre génération. Cette mémoire à transmettre, c'est pas pour nous, mais pour les autres, hein. Tous les autres, ceux qui sont morts au fond, tous ceux qui sont morts de la silicose, tous ceux qui sont morts sur les chantiers, broyés, décapités, pulvérisés. Ces travaux qui n'ont pas de sens, est-ce que c'est à la fin des fins, ce qui reste, c'est l'idée que ça va servir au moins aux autres ?
Je ne suis même pas certain, parce que quand le père raconte son travail à la mine, ou les unélipes, ou les maraîchages, etc., il y a l'idée, là on est globalement dans les 30 glorieuses, donc il y a encore cette idée du progrès en termes de projection. Et l'idée de projection, elle est toujours générationnelle, c'est-à-dire ceux qui viennent après vous. Et ce rapport, cette projection, elle est liée à un rapport au temps, à la question du temps. Et beaucoup d'historiens montrent qu'on a changé de régime, à la fois d'historicité, mais aussi dans un régime de temporalité. Pendant très longtemps, on a été, notamment avec la grande période industrielle, parce que le travail avait cette fonction-là dans cette catégorie des industries complètement lourdes, où on retrouvait beaucoup d'ouvriers avec une espérance, avec, des syndicats qui étaient derrière, avec une idéologie en termes de projection. Mais en fait, à partir des années 70, et notamment 80, tout ce rapport au temps a complètement changé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rapport au temps long, on est dans un rapport au temps qui relève de l'immédiateté et de l'instantanéité, et toute la technologie que nous avons ici nous ramène constamment à un temps présent, l'éternel présent. Alors François Herzog appelle ça le présentisme. Et dans ce présentisme, il est très difficile de pouvoir se projeter. Et c'est pour ça que la catégorie du travail est elle-même doit être déconstruite, parce que la catégorie de travail amène ce rapport au temps long dans la fidélité. On pouvait rester 30 ans, 40 ans dans une usine. Aujourd'hui, ce rapport au temps a complètement périclité. On est dans l'immédiateté. Et puisque Gaspard parle notamment du politique, le politique lui-même est obligé de rentrer dans cette immédiateté. C'est-à-dire qu'on arrive et on lui dit, il faut résoudre les problèmes du jour au lendemain. Et comme lui ne peut pas les résoudre du jour au lendemain parce que ça nécessite un rapport au temps qui est complètement long, automatiquement il se met à mentir. Ce qui fait que la parole politique, la parole médiatique est complètement dévaluée. Et une société où la parole ne tient plus promesse est une société qui s'enfonce complètement. Et donc, dans cette difficulté de pouvoir se projeter, même au niveau de la famille, c'est-à-dire que tout à l'heure, Gaspard mettait en avant les catégories avec Hannah Arendt au sens de l'activité et de l'œuvre. Et donc, du coup, est-ce que faire famille, c'est faire œuvre ? Parce que c'est aussi un travail. Est-ce que les femmes, quand elles enfantent, c'est pas aussi un travail ? Vous voyez ? Est-ce que les femmes au ménage, tout ce que nous voyons, est-ce que c'est faire œuvre ? Mais du coup, quelqu'un qui ne fait rien de sa vie, on dit que c'est un désœuvré. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des lieux de production et de travail qui deviennent des lieux de désœuvrement ? Et quand j'entends par désœuvrement, l'idée de déshumanisation dont vous parliez tout à l'heure. Et je crois qu'on est véritablement à un moment où toutes les catégories de pensée, toute la grammaire avec laquelle nous avons travaillé, avec laquelle nous avons pensé le monde, sont en train de s'écrouler devant nous. Et donc, dans ce rapport à l'immédiateté, monte automatiquement l'idée d'angoisse. Parce qu'il y a une impossibilité de pouvoir se projeter. Moi, dans les années 80, lorsqu'on avait des cours, c'était introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, synthèse. Et la synthèse, c'était la promesse de pouvoir trouver une catharsis entre la thèse et l'antithèse. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'ouverture. Et je me rappelle, dans les années 70 et 80, pour les plus vieux, il y a marqué à la fin, en tout cas, une espèce de fin dans le film, qui relevait d'une fin heureuse. Vraiment, c'était ça la projection, les grands films d'1h30, 3h, 4h, il y avait quand même une espèce de fin. Aujourd'hui, même le rapport aux séries que nous voyons sur Netflix ou ailleurs, qu'est-ce qui est célébré ? C'est les personnages, c'est l'univers, et le côté constamment instantané. C'est-à-dire qu'on est obligé d'être dans cette espèce d'instantané. Et donc, il n'y a plus de résonance. Ça ne résonne plus. Il y a une espèce de dissonance. Et je trouve que si on ne réfléchit pas à partir de ces nouvelles catégories qui sont en train d'émerger à la marge, ce qui est en train de nous arriver, on est en train de repenser la question du travail, la question de la famille, la question de l'éducation, la question de la transmission, tout de même la question de la narration, puisqu'il y a aujourd'hui une rupture dans la narration, parce que Saint Augustin disait « Le temps, je sais ce que c'est, mais dès qu'il s'agit d'en parler, je ne sais plus. Je n'arrive plus à trouver les mots. » Et c'est pour ça que le récit vient au secours du temps. Mais quand vous avez une société au dans des familles où le récit, c'est ce qui se passe avec le narrateur, c'est-à-dire que le narrateur, il revient après 22 ans à la mort de son père, il le dit, il a fallu qu'il meure pour que je revienne, et il va découvrir à travers ses cassettes toute une vie de son père. Il va pouvoir construire un récit, une narration. Mais quand vous avez dans des familles, dans des sociétés où il y a une incapacité à dire un récit, puisque je pense d'abord que nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. C'est-à-dire que le récit n'est pas neutre. C'est-à-dire que le récit ouvre à l'imagination et l'imagination ouvre à l'action. Mais quand vous avez une part des récits, quand vous avez cette guerre des récits dans la société française, il y a deux grands récits. Hein. Je ne parle pas des récits féministes, des récits économiques, sociaux, décoloniaux, etc., qui sont porteurs d'émancipation. Mais quand vous avez tous ces récits qui sont porteurs d'émancipation individuelle et collective, qui sont encapsulés par deux grands récits dans la société française, qu'on voit le récit de l'insécurité et le récit du ressentiment, la question, c'est comment pouvoir se projeter et repenser la question du travail lorsqu'une société n'a pas cette capacité elle-même de produire un récit qui lui permettrait de dire d'abord qui elle est dans une complexité quand même qui est assez folle et en même temps c'est dans cette capacité de se projeter. Et donc je crois que c'est avant tout une crise de notre rapport au temps qui déconstruit tout ce que nous sommes en train de faire. Et donc tant qu'on n'aura pas repensé comment repenser un autre rapport au temps dans ce rapport de l'immédiateté, de l'instantanéité, parce que le rapport au temps long ne reviendra plus. Donc il va falloir revivre un autre rapport au temps et un autre rapport au travail, à l'emploi, tout ce que l'on veut.
En plus du rapport de temps, il y a aussi un rapport, une tension entre l'individu et le collectif. J'étais très frappé en lisant vos romans, Rachid Benzine et Franck Cortès. Dans le vôtre, Rachid Benzine, on a cette idée, on est encore à l'usine, dans les années 70, on est chez Lip. On voit des individus qui ont été obligés de quitter leur famille, leur patrie, et pour lesquels le travail permet d'une certaine façon de refaire société, de retrouver une signification par le collectif. Dans le vôtre, Franck Cortès, on a l'impression que justement ces immigrés dont vous parlez n'ont plus du tout cette possibilité-là. On est dans la compétition individuelle pour réussir à diminuer les tarifs et la dimension collective devient beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Est-ce que ça change aussi la façon dont le travail peut trouver un sens ?
Moi, ce qui me terrifiait quand je voyais ces jeunes gens, c'était vraiment effectivement j'aime pas qu'on parle d'exclus de la société, parce que je pense pas que ces gens-là soient exclus du tout de la société. Ils font partie de la société, une société qui a un organe qui va très mal, une partie de la société va très très mal, est malade. Mais ils ne sont pas exclus. Il faut au contraire s'imaginer comme une société avec une partie pourrie, malade, qui est en train de pourrir, quoi. Mais contrairement effectivement à ce que j'ai entendu des récits d'immigrés des années 60 ou même quand on lit l'établi de Linhart, il y avait quand même effectivement un rapprochement physique tout simplement des ouvriers entre eux et ils formaient une forme de classe, de clan, de tribu même. Là, c'est complètement explosé par la manière d'exploiter ces manœuvres, qui ne se connaissent pas entre eux, qui retournent chez eux, qui sont appelés uniquement par leur téléphone, sur des comptes qui ne sont pas forcément à eux. Moi, j'ai un exemple qui m'avait assez choqué, qui en dit assez long quand même. C'est pendant le Covid, je faisais des livraisons à vélo. Et je me retrouvais donc avec beaucoup de jeunes Africains qui faisaient aussi le même travail, mais à des sommes encore plus basses que les miennes. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je travaillais à la course 10 euros. Eux, c'était plutôt à 3,50 euros. Quoi. Et on remontait. Les rues étaient désertes. On se retrouve dans une nasse. Il y avait un contrôle de police. Et la seule personne que les policiers ont contrôlée, c'était moi, qui était le seul, alors je dirais pas blanc, parce que c'est juste que j'avais l'air le plus... ils m'ont considéré, en fait. Je me suis senti considéré par l'arrestation et le contrôle. Alors que tous les Africains, on les a laissés passer comme s'ils n'existaient pas. Ils étaient totalement invisibles. Et j'ai trouvé ça d'une... Alors, allez, j'étais content pour eux. Hein. Je les ai regardés en me disant, bon, bah, bravo les gars. Mais en même temps, j'ai trouvé ça d'une cruauté bien pire. Hein. Finalement, j'aurais aimé qu'ils soient considérés, contrôlés. Voilà. Ils faisaient partie... C'était juste des vélos ambulants. Il n'y avait pas des hommes sur les vélos. Les policiers ont estimé que, et peut-être qu'ils avaient des ordres, qu'il ne fallait pas les arrêter parce que de toute façon, c'était que des soucis et qu'on ne pouvait rien y faire. Je trouvais que ça, c'était d'une dureté. Ça en disait très, très long sur la manière dont on traitait ces gens au travail qui nous rendent des services quand même. Quoi.
Une dernière question, peut-être, Gaspard Koenig, avant de vous donner la possibilité de vous-même vous poser des questions à nos invités. Vous citiez tout à l'heure David Graeber, qui est l'un des anthropologues les plus importants des dernières décennies, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. David Graeber, pour beaucoup de gens, ils l'ont découvert grâce à un livre où il évoque les bullshit jobs, ces jobs de merde qui n'ont a priori aucun sens et que beaucoup de gens se trouvent à occuper. Dans cette idée justement de trouver du sens au travail, est-ce que nous en sommes tous capables ? Est-ce qu'il n'y a pas des métiers qui... par définition, n'auront jamais de véritables possibilités d'émancipation ou de plaisir. Ou est-ce qu'on peut tous trouver une façon de trouver un job qui nous permette ça, ou à l'intérieur même de notre job de le faire.
Très bonne question. Alors d'abord, David Graeber, c'est merveilleux. Pour moi, c'est le plus grand penseur de ce 21e siècle. Et il faut tout lire. En fait, tout est génial. Et à chaque fois que j'ai lu un livre de Graeber, j'en suis sorti chamboulé parce que ça brise énormément d'idées reçues, y compris le dernier paru, The Dawn of Everything, sur l'histoire même de notre civilisation, de nos sociétés. Et c'est très référencé, c'est très solide et c'est très imaginatif. Et en plus, souvent, c'est assez drôle. Donc vraiment, lisez David Graeber. Sur les bullshit jobs, justement, il dit tout l'inverse. Et je le pense profondément. N'importe quelle tâche peut avoir un sens si vous la faites pour vous, parce que vous produisez quelque chose, une œuvre. Moi, j'ai un verger en Normandie, je récolte mes pommes. Économiquement, c'est grotesque. Je passe 5 demi-journées pour probablement l'équivalent de, je sais pas, 150 euros de récolte. Mais j'y prends un grand plaisir, alors que ce sont des tâches assez pénibles, assez répétitives. Et probablement que si je faisais ça en tant qu'ouvrier mal payé sur une plateforme à ramasser des pommes, je trouverais ça complètement naze. Mais là, j'y donne du sens parce que c'est ma production, c'est mon œuvre. Voilà. Et c'est exactement ça qu'il dit dans Bullshit Job. Ça ne dépend pas du tout de la nature du job ou du niveau du job. Ça dépend pour comment et pour qui vous le faites. Et ce qui est très intéressant dans les Bullshit Jobs, c'est que ce n'est pas lui qui qualifie les jobs comme bullshit. Il a demandé aux gens, en faisant un grand sondage mondial, qu'eux-mêmes définissent leur job comme bullshit. Et il a simplement pris ce que disent les gens de leur propre travail. Mais là-dedans, il y a... des ouvriers qui sont à la chaîne, mais il y a aussi des profs d'université qui passent leur temps à remplir des formulaires, qui considèrent qu'ils enseignent les mauvaises choses aux étudiants. Et en fait, c'est toujours la caractéristique commune de tous ces métiers auto-définis comme bullshit, c'est l'application de process, où on n'est plus autonome dans la gestion de son œuvre ou de son travail, mais où on applique une consigne ou une méthodologie qu'on ne comprend pas et dont on ne voit pas les effets finaux, et ce, à tous les niveaux de la chaîne sociale. Et évidemment, c'est très lié pour Graeber à un autre de ses thèmes, qui est un autre livre sur l'empire des règles, à la bureaucratisation du monde, qui est lui pas seulement une question administrative, mais qui concerne l'ensemble des secteurs, et l'idée que nos systèmes économiques ont produit des sociétés bureaucratisées parce que, obligeant toujours l'individu à se référer à quelque chose d'extérieur, à sa propre volonté. Et donc, bon, alors lui, il les évalue à un tiers, les bullshit jobs, mais enfin, c'est un peu au doigt mouillé. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les gens se reconnaissent d'emblée. Par exemple, si je disais, c'est pas flatteur comme expérience, mais qui dans la salle considère qu'il a un bullshit job? Bon, monsieur, voilà, par exemple. Voilà. Bon, non, enfin, circule un questionnaire anonyme à la fin. Ouais. Mais bon, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas sur la nature du métier, c'est la manière dont on le fait. Et je pense que les grandes réponses à ça, bah, c'est d'un côté le revenu universel sur la question du pouvoir de négociation, mais c'est de l'autre côté la réappropriation du travail et des produits du travail, mais que ce soit pour un ingénieur informatique ou pour un agriculteur qui doit pouvoir le maîtriser, en fait. Et aujourd'hui, on est dans des processus qui nous dépouillent de ce que nous avons produit nous-mêmes et nous ne savons plus pourquoi nous le produisons. Et ce n'est pas une question de RSE, de dire mon entreprise a du sens parce qu'elle plante des arbres. C'est une question de travail quotidien, de la manière dont le travail quotidien est défini.
Il nous reste quelques minutes pour que vous puissiez vous-même poser vos questions à nos trois invités. Nous avons un micro qui est disponible. Oui, il y a deux questions quasi côte à côte. Allez-y, relevez la main pour que la personne avec le micro vous voit.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais avoir votre avis. Vous avez parlé de revenu universel. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le revenu universel. Je suis un ancien directeur de Pôle emploi. Mais j'ai découvert un autre projet qui s'appelait le Territoire zéro chômeur, où là on parle beaucoup plus de travail universel. Donc j'aurais aimé avoir votre avis, parce que moi, pour avoir beaucoup malheureusement fréquenté de personnes qui étaient privées, nous, dans le cadre du projet, on les appelle pas des demandeurs d'emploi, mais des personnes privées durablement d'emploi, je me suis aperçu que pouvoir effectivement proposer à des personnes qui ont été, alors sans employer le mot exclu, mais qui sont quand même privées de travail, ça pose un réel problème de reconnaissance, comme Rachid l'identifiait. Donc moi, je voudrais avoir votre avis sur, non pas le revenu universel pour lequel moi j'ai beaucoup milité, mais le travail universel.
Je pense que c'est quand même deux philosophies qui s'opposent, hein, faut être clair. Dans un monde de le travail universel, c'est un peu soviétique, hein, comme idée. Parce que pourquoi il y a des... J'avais visité le métro de Yerevan en Arménie. Pourquoi il y a des cabines avec des gens dans les cabines qui regardent les gens qui circulent dans le métro? Il y a ça aussi dans les métros de Moscou, dans tous les métros des anciens pays de l'Est. Parce qu'on donnait un salaire universel aux gens, pas un revenu. Hein, et donc, il fallait les faire bosser, il fallait leur trouver un travail. Et donc, on leur créait des boulots qui n'avaient absolument aucun sens, notamment celui de surveiller l'escalier mécanique. Et je leur ai demandé, parce que c'était avec les gens qui, de la régie des transports que je visitais, je leur ai demandé, mais pourquoi vous laissez ces dames Elles disent, au cas où il y a quelqu'un qui a sa figure dans l'escalier. J'ai dit, c'est déjà arrivé? Non, mais au cas où. Bah, franchement, c'est pas très valorisant de trouver un travail comme ça aux gens. Moi, je préfère leur donner de l'argent et ensuite les laisser définir leur vie. Je fais le pari que la plupart vont en fait être très créatifs. Et d'ailleurs, il y a des expériences de revenu universel qui ont été faites en Inde, dans le Madhya Pradesh, par Guy Standing, à l'université, qui sont vraiment très sérieuses, beaucoup plus pro que celles dont on entend parler ici ou là, et qui montrent que qu'est-ce qui se passe dans un village à grande majorité illettré, hein, c'est pas des gens qui ont accès à la culture, au savoir, à l'éducation, quand on leur donne un revenu universel, c'est-à-dire un revenu fixe et garanti, et ben, il se passe que, un, les gens sont les mieux à même de définir leurs propres besoins, donc ils refont leur sanitation, et avec des choses qu'on n'aurait jamais pu leur fournir avec des ONG, parce que c'est eux qui savent exactement de quelle toilette ils ont besoin dans tel village, et que, deux, le taux d'entrepreneuriat augmente. Bah oui, évidemment, quand vous avez une espèce de stabilité que vous pouvez vous projeter dans l'avenir parce que vous avez une sécurité financière minimale, et ben vous pouvez commencer à entreprendre des choses et voir si ça rate, c'est pas grave. Moi, j'avais visité un village au Brésil qui expérimentait le revenu universel. Enfin, il y avait une ONG qui donnait un revenu comme ça en cash aux gens tous les mois pour la vie. Et c'était fascinant de voir que tout le monde en faisait un usage qu'on pourrait considérer comme rationnel, et parce que les gens en ont vraiment besoin, donc c'est les plus homo economicus qui existent. Et que deuxièmement, chacun en faisait un usage différent. Il y en avait qui avaient l'esprit d'entreprise, qui prenaient des cours de coiffure pour ouvrir une boutique dans le village, et puis on allait bien voir si ça marchait. Il y en avait d'autres qui achetaient un ticket de bus pour pouvoir aller à la ville, pour pouvoir chercher un boulot à la ville. Enfin bon, voilà, chacun définit ses besoins. Et c'est, je trouve, beaucoup plus puissant comme approche et beaucoup plus confiant dans la nature humaine que de dire, bon, vous n'êtes pas capable de vous trouver un boulot, ben on va vous mettre là, dans la petite boîte du métro d'Yerevan. Bon, je caricature, hein, évidemment, et je trouve que dans l'état actuel des choses, que fait Territoire Zéro Chômeur est quand même admirable et sans doute vertueux localement. Mais je pense quand même que ce sont deux philosophies très différentes et qu'à un moment donné, il va falloir trancher.
Le harcèlement ? Le harcèlement au travail. C'est une grande question.
Je voudrais juste revenir un peu à ce qui a été dit, parce que sur cette question du revenu universel et du travail universel, ça dit une conception de la société et une conception des institutions. C'est-à-dire que globalement, je dirais la famille, les lieux où l'on travaille, l'éducation nationale, peu importe, sont des lieux qui sont censés produire de la reconnaissance. Globalement, lorsque je travaille dans une entreprise, au-delà du salariat, il y a un phénomène, je dirais, de reconnaissance ou de déni de reconnaissance qui peut se traduire par des pathologies de la reconnaissance. Et que globalement, je dirais beaucoup, ce qui concerne le libéralisme et le capital, va appuyer sur ce besoin de reconnaissance chez l'individu, ce qui fait que l'individu peut tellement travailler jusqu'à arriver au burn-out et au harcèlement, etc., de telle sorte à ce qu'il aille chercher une espèce de reconnaissance qui ne viendra jamais. C'est-à-dire que Paul Ricoeur, il appelle ça une conscience malheureuse. C'est-à-dire que l'être humain, constamment, va essayer d'aller chercher cette reconnaissance auprès de son institution. Mais dans le travail que j'ai essayé de faire sur justement les théories de la reconnaissance entre les institutions et les citoyens, ce qu'on découvre, c'est que non seulement les citoyens sont en quête de reconnaissance, mais il y a quelque chose qui est nouveau qui se produit. Pendant très longtemps, c'était les institutions qui reconnaissaient les citoyens et les travailleurs. Aujourd'hui, les institutions elles-mêmes demandent à être reconnues. Et c'est ça la grande nouveauté de ce que nous traversons. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport de force qui peut s'établir et qui est terminé, dans lequel on peut négocier. Et c'est là où la question de la réciprocité entre les institutions et les citoyens et les salariés peut se renégocier, parce que globalement, ils ont besoin de nous. Et c'est très intéressant, parce que si on prend simplement le cas des professeurs, ils demandent que les élèves les reconnaissent, que les parents les reconnaissent, que les administrations les reconnaissent. Mais pendant très longtemps, je veux dire, le professeur était sur son piédestal, la question de l'autorité, et donc on demandait à être reconnu par lui. Et donc la question, c'est dans quelle mesure l'institution, puisque Gaspard parlait de normes, dans quelle mesure l'institution va se laisser interroger par les pratiques des citoyens, des salariés, pour justement développer et revoir sa norme en termes de reconnaissance. Parce qu'il y a des phénomènes de reconnaissance qui peuvent vous émanciper, puis il y a des normes de reconnaissance qui peuvent vous aliéner. La reconnaissance familiale peut être aliénante. La reconnaissance au travail peut être aliénante. Et c'est à partir, me semble-t-il, et c'est là, c'est les catégories que l'on doit quand même à Marx, qui est quand même indépassable, sur la question de l'aliénation et la question de la reconnaissance. Mais la question, c'est qu'est-ce qui doit être reconnu dans cette demande de reconnaissance ? Et c'est là où le travail doit se faire entre les institutions et les citoyens. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de collectifs et de syndicats, parce que globalement, on ne pourra pas travailler ces questions-là sans le travail du collectif, sans le travail de faire commun. Et effectivement, dans les silences des pairs, on voit des syndicats, on voit des gens qui partagent une même catégorie sociale, professionnelle, pour pouvoir se battre, pour pouvoir peser. Mais lorsque dans une société, vous n'avez plus ces catégories qui permettent un moment de pouvoir discuter, qui permettent un moment de pouvoir honorer le conflit, et on a bien vu globalement avec les syndicats sur... je dirais, au niveau de la demande de la retraite, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un gouvernement qui dit « vous pouvez descendre autant que vous voulez, vous pouvez parler autant que vous voulez, j'en ai rien à foutre ». Et lorsque votre parole n'est pas suffisamment prise en compte, c'est de l'humiliation. Et les humiliations préparent toujours les violences de demain. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même revoir toutes nos catégories de pensée pour se dire, est-ce qu'une politique du commun est encore possible ? Est-ce qu'une politique de l'emploi, du travail est encore commun ? Mais qu'est-ce qui fait que vous et moi, on est semblables ? Parce que globalement, c'est ça qui est posé dans cette question du travail. Est-ce que l'autre est mon semblable, ou est-ce que l'autre n'est plus du tout mon semblable ? Et que lorsqu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont pouvoir se sauver du monde en se mettant ensemble et que la question du commun n'est pas posée, bah ça ne marche plus. Et que pendant très longtemps, la question du travail, c'était la question du commun. Aujourd'hui, ce commun, bah, on voit toute la difficulté qu'il y a à se dire, bah, en fait, sur l'ensemble des Français, qu'est-ce qui nous est commun ? Je ne sais plus. Si...
Mais ça sera un autre débat.
Monsieur, pour la dernière question, allez-y.
Oui, c'est ça. Justement, est-ce que la semaine des 4 jours, par exemple, ne serait pas une bonne transition justement entre la quête de sens et gagner son pain ?
Alors, je ne répondrai pas exactement à votre question parce que je n'ai jamais réfléchi au sujet. Ce n'est pas exactement le cœur de mon livre, mais donc je n'y ai pas pensé. Mais elle me fait penser à un autre sujet d'actualité qui est les heures qu'on va imposer aux bénéficiaires du RSA et qui est pour moi l'hypocrisie en marche, quoi. Sachant que... quand j'ai obtenu moi mon RSA, j'ai demandé, on nous incite à de toute façon travailler pour la mairie gratuitement en compensation, et que j'ai dit oui volontiers parce que j'étais tellement heureux de le toucher et que je n'ai jamais reçu la moindre proposition. Entre parenthèses, comme j'étais dans la catégorie artiste, le travail que j'étais supposé faire dès qu'ils en auraient l'occasion, c'était d'effacer les tags, parce que tout ça c'est la catégorie art. Mais non, c'est vrai. mais c'est drôle, comme si, au lieu d'expliquer que le RSA ou éventuellement un revenu universel a un but à long terme de bienfait pour la société, on court après plutôt une mentalité qui est de se plaindre qu'on est trop généreux, justement. Mais évidemment, les pouvoirs publics continuent d'être généreux, ils n'ont pas le choix, ils savent très bien, eux, que si on supprime les RSA ou si on les conditionne à encore plus de contraintes, on risque des émeutes, on risque des drames, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc, en fait, assez hypocritement, ils courent après ce qu'on pourrait appeler une droitisation des esprits et qui est de remettre les profiteurs quand même, de les faire payer quand même, quoi. Les profiteurs entre guillemets, hein, évidemment. Mais bon, je ne réponds pas exactement à cette histoire des 4 jours. Effectivement, c'est intéressant, mais je pense que des gens plus spécialistes comme Gaspard pourraient vous éclairer, non ? J'ai l'impression que vous avez un peu plus de culture que moi.
Pour moi, le but, c'est de la fin du salariat, c'est quand même ça. D'ailleurs, on parle de l'aliénation de Marx. L'aliénation, elle vient d'où ? Elle vient du salariat chez Marx, parce qu'on produit quelque chose qui ne nous appartient pas pour quelqu'un d'autre, qui nous capte la valeur ajoutée et tout ça. Donc, le but du jeu, c'est de sortir de règles strictes qui nous enferment dans une semaine de X heures ou qui nous disent qu'on va prendre notre retraite à X années. Je rappelle que j'avais écrit une chronique qui avait eu beaucoup de succès, qui était « Pourquoi je vais prendre ma retraite à 35 ans ?» Mais parce que, en fait, on pourrait avoir imaginé un système de retraite qui, justement, permette de la prendre quand on veut. On tire ses points, on prend une petite rente, on réaccumule après. Bon, après, c'est des problèmes techniques, mais...
Je ne sais pas ce que c'est la retraite, moi, donc...
Ouais, bon,
j'en arrête pas.
Et donc le but, c'est quand même d'être dans un système beaucoup plus libre où les gens organisent leur temps, leur semaine comme ils veulent. Ils veulent travailler 7 heures par semaine parce que c'est la récolte des pommes. Je veux dire 7 jours par semaine. Ouais. Tant mieux que les choses soient organisées en fonction de chacun et pas sur des grands systèmes collectifs rigides qui vous déterminent le nombre d'heures de travail, le nombre d'années de cotisation, enfin, tout ça est très, je trouve, infantilisant en fait, et très homogénéisant et très triste. Voilà.
Les profiteurs, je crois que c'était nous pendant cette heure qui avons profité de vous écouter, d'écouter vos analyses, vos regards. Lisez ces 3 romans, À pied d'œuvre de Franck Courtès chez Gallimard, Humus de Gaspard Koenig à l'Observatoire, Le silence des pères de Rachid Benzine au Seuil. Vous pouvez les retrouver évidemment à leur table. Vous pouvez nous retrouver nous aussi au 1 Hebdo, là, au stand du 1, pour récupérer, si vous n'avez pas déjà eu, ce numéro spécial pour la foire. Et puis je vous souhaite une bonne suite. On se retrouve pour les prochaines rencontres du cycle Temps présent.